Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour, nous sommes donc mercredi 9 mars, vous écoutez Au ras des rues sur Radio Kaléidoscope. Autour de la table, l'équipe habituelle avec Morgane, bonjour.
Bonjour.
Avec Benjamin,
bonjour.
Crieur de la Villeneuve, avec Antoine.
Bonjour.
Et Marie-France, on vous présentera notre invité tout à l'heure. J'oubliais, comme d'habitude, j'oubliais Pato qui est à la technique. Merci Pato. Vous retrouvez ces émissions dans une semaine ou deux en podcast sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net. Vous pouvez nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des sujets à nous proposer, etc. L'adresse du courrier électronique, c'est auradesrues@lecrieur.net. Et on a aussi une page Facebook, auradesrues RKS 97 FM. Voilà. Donc, au sommaire de notre émission aujourd'hui, l'habituel agenda de la Villeneuve, village olympique, s'il va se passer des choses, et quelques articles plus consistants. Et sinon, l'invité aujourd'hui, c'est Djilali Redim. Morgane, tu nous le présentes rapidement?
Oui, donc Djilali, tu viens aujourd'hui nous parler de l'association Asali. Est-ce que peut-être en intro, savoir qu'est-ce que ça veut dire Asali et...
Tout d'abord, merci de m'avoir invité, hein, donc Radio RKS.
Tout le plaisir est pour nous.
Et toute l'équipe. Donc, je suis aujourd'hui venu pour présenter l'association Asali. L'association Asali a comme sigle ASALI, Association de solidarité des Algériens de l'Isère. Elle a été créée en janvier 1992 dans un cadre assez spécial, pour organiser ce qu'on appelle la garantie obsèques, c'est-à-dire le rapatriement des ressortissants franco-algériens ou algériens dans leur pays d'origine, l'Algérie.
D'accord. Et du coup, on aura tout le temps d'en discuter en deuxième partie de l'émission.
Oui, je crois que vous faites aussi beaucoup d'autres choses.
Oui.
Ouais. Voilà, on va avoir de quoi discuter.
La parole à Benjamin,
l'agenda de la défense, c'est ça? Alors, dans l'agenda du Crieur de la Villeneuve, vendredi 11 mars, à partir de 18h, aura lieu la quatrième rencontre pour comprendre sur le thème « Liberté d'expression, peut-on rire de tout ?» sous-titré « Un an après Charlie, qu'avons-nous envie de dire ?» Donc voilà, sur la rencontre pour comprendre, on en avait déjà parlé, il y avait eu la venue de Saïd Bouamama en novembre et il y avait eu celle de je ne sais plus qui...
Quelqu'un d'autre était venu.
Voilà, en février ou en mars 2015. Et donc là, cette fois-ci, l'intervenant sera Hervé Hoth, formateur et transformateur des conflits. Donc comme d'habitude, la soirée sera organisée avec une partie échange entre habitants, participants, et après une partie plus conférence avec notamment Hervé Hoth. Donc c'est le vendredi 11 mars à partir de 18h. C'est à la salle polyvalente des Baladins, 85 Galerie des Baladins. Et puis vendredi 11 mars toujours, à partir de 20h30, aura lieu une soirée karaoké au Baratin. Donc le Baratin, c'est le café associatif qui est situé au patio, 97 Galerie d'Arlequin. Donc soirée karaoké à partir de 20h30, suivie d'un repas couscous algérien sur réservation. Donc je ne sais pas ce que vaut le couscous algérien du Baratin, mais on va peut-être aller tester. Et puis sinon, un peu plus tard, mardi 22 mars, à partir de 18h, aura lieu la journée porte ouverte de la Régie de quartier. Donc la Régie de quartier, c'est la grosse association du quartier qui s'occupe de l'entretien du patrimoine de la Villeneuve, en fait.
Oui. C'est une association qui fait l'insertion.
Oui, l'insertion. Donc voilà, à partir de 18h, au local de la Régie de quartier, c'est donc au 17 Galerie de l'Arlequin. Voilà, c'est tout pour l'agenda.
C'est tout pour l'agenda.
Alors, Morgane. Moi, j'ai d'autres dates. Donc, je fais de la concurrence le soir du vendredi 11 mars. Donc, de 17h30 à 20h30 à la Maison des Associations. C'est un peu en dehors du quartier. Donc, voilà, on a décidé quand même de vous le transmettre. Au 6 rue Berthe de Boissieu, une conférence sur les frontières comme instrument de guerre. Dans le cadre de solidarité avec les migrants et on le relie aussi avec des questions qui animent le quartier, notamment avec la présence des habitants au Crous dont on a déjà pu parler, qui sont sur la route migratoire. Et voilà, donc c'est ces trajectoires qui impactent aussi notre quotidien dans la ville. Et puis je vais aussi embrayer sur la semaine suivante. Il y a le lancement des rencontres de géopolitique critique sur le thème de l'Afrique et du post-colonial. C'est en complément d'un festival de géopolitique qui se déroule.
Complément, contrepoint, contre.
Complément. Qui se déroule à l'école
Grenoble, l'école
de management. Donc, pour cette rencontre de géopolitique critique, rendez-vous le mercredi 16 de midi à 14h pour un regard critique sur le développement à l'IGA, donc à l'Institut de géographie alpine, avenue Marie-Rénoir.
C'est chez nous.
Et il y aura le même jour, de 18 à 20h, une table ronde à Hamal, au centre-ville, sur les nouvelles formes de guerre, interventionnisme militaire français. Et de 20h30 à 22h30, dynamique transfrontalière et perspective de développement. Donc voilà, il y a pas mal de monde qui viendra, Il y a pas mal de chercheurs invités, l'association Surviser qui est connue pour son travail d'investigation sur les questions de la France-Afrique. Voilà, je ne vous en dis pas plus.
Les chercheurs de PACTE qui sont à côté à l'Institut de géographie ou à
l'urbanisme. Oui. Il y a des chercheurs également de l'Institut catholique d'Afrique centrale sur la deuxième table ronde dont je vous ai parlé. Enfin voilà, il va y avoir du monde.
Merci. Peut-être qu'on va, on passe à un autre point, Benjamin, ou alors on écoute la musique.
Non, je peux vous parler d'un article qui a été publié donc lundi 7 mars sur le site du Crieur, qui est en fait une tribune écrite par Thomas Pédon-Trouvé, qui travaille donc au Baratin, qui a eu un accident de voiture, qui en fait un tram lui est rentré dedans. Un accident de voiture au carrefour de la rue des Peupliers, de la ligne A du tram. Donc c'est à côté de la Villeneuve, c'est juste à côté du nouveau parking silo. Enfin, nouveau parking silo, ça fait maintenant un an et demi qu'il était ouvert. Et c'est une tribune en fait pour réclamer l'aménagement de ce carrefour-là qui est très dangereux en fait. Il y a juste un feu clignotant pour signaler le passage du tram. Et donc c'est pas la première fois qu'il y a des accidents dans ce coin-là, à ce carrefour-là. Pour vous raconter, nous on a été voir Thomas quand il a eu son accident et quand on discutait avec lui, y a une dame qui est passée qui nous a dit que son fils aussi avait eu la semaine dernière le même type d'accident. Donc voilà.
On s'imagine que pas grande circulation dans ce coin et du coup on fait moins attention.
Pourtant, il y a beaucoup de voitures qui passent, mais les gens font pas forcément gaffe à l'arrivée du tram et en fait il y a rien pour prévenir vraiment l'arrivée du tram. Donc c'est une tribune pour réclamer au moins l'installation d'une barrière sur cette route-là, un passage en fait à niveau. Quand le tram.
Ou un feu.
Ou moins un feu, oui. Parce que le pensant, il y a juste un feu clignotant.
Et donc... Parce que, en fait, on se sert un peu de ces trucs comme de raccourci pour rejoindre l'avenue La Bruyère, quelquefois. Donc,
C'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'est une tribune qui est à lire sur le site du Crieur, www.lecrieur.net.
Bon, on va peut-être écouter une première musique. Alors, c'est une musique. Aujourd'hui, on va faire un petit parcours en Amérique latine entre Cuba, la Colombie, l'Argentine. Et c'est une musique tranquille d'un compositeur classique cubain. On va dire classique parce que il fait partie des premiers compositeurs vraiment cubains, qui ont une musique métisse et non plus un peu ceux d'avant qui suivaient les modèles occidentaux ou espagnols. Il s'appelle Ernest Lecuona. Le morceau s'appelle Siboney. Siboney, c'est une ville des environs de Santiago de Cuba. Et le pianiste que nous allons écouter, c'est Ruben González. C'était un des célèbres papis de la salsa qu'on a vu dans le film Buena Vista Social Club, qui fait déjà partie de l'histoire. Hein. Il est décédé aujourd'hui. Et c'est un des grands pianistes cubains. Donc cette musique, c'est un boléro inspiré de la nature cubaine autour de Santiago de Cuba. Une chanson d'amour à ce pays. De nombreux interprètes ont chanté ou joué ce morceau. Depuis Rita Montaner, qui était une des premières chanteuses métisses à avoir un peu droit de cité à Cuba, puisqu'avant les Noirs étaient vraiment au banc de la société. Et elle a été utilisée aussi pour des musiques de films, notamment aux USA. Donc on écoute le pianiste Ruben González dans Siboney. C'était Siboney, un morceau cubain d'Ernesto Lecuona. Un petit mot sur autre chose qui va avoir lieu dans le quartier. La date est un peu plus lointaine. Pour ou contre la gratuité des transports en commun. Alors, il s'agit d'une soirée débat qui aura lieu le mercredi 6 avril à 20h, animée par Place Grenette et organisée par l'Aglo. L'AGLO, c'est les associations d'habitants du Grand Grenoble. C'est le regroupement des unions de quartier de l'agglomération. Ça s'est constitué à peu près en même temps que la métro, l'ancienne métro. Et ils ont un site www.laglo.org. Alors l'AGLO s'écrit LAHDGLO.org. Donc ça aura lieu à l'Institut de géographie alpine dont on vient de parler, en présence de l'Association pour le développement des transports en commun, la Fédération nationale des usagers des transports en commun, le collectif pour la gratuité et un représentant de la ville d'Aubagne. On sait qu'Aubagne, donc à Aubagne, les transports sont gratuits. Voilà, donc ce sera le mercredi 6 avril à 20h pour ou contre la gratuité des transports. Morgane,
oui,
à toi
alors,
la parole.
Je voulais vous parler de rencontres qui deviennent récurrentes, qui est donc l'Assemblée des mal logés et des sans logement. Il y a eu un premier rassemblement samedi 27 février et un deuxième samedi 5, donc samedi dernier, 5 mars, à la Bourse du Travail. Et donc l'idée qui a été pas mal soutenu par le DAL, l'association Droit au Logement, qui est en fait un réseau national Sur les questions du droit au logement, donc de beaucoup de luttes en fait qu'ils ont tenues, et surtout, enfin, il y a un noyau très fort à Paris notamment. Et donc l'idée, c'est de rassembler les personnes qui sont en situation de mal logement. Donc par là, on entend les personnes qui sont menacées d'expulsion parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Les personnes qui sont pas dans des logements qui sont adaptés, donc soit pour des personnes âgées, soit pour des personnes handicapées, soit pour des familles trop nombreuses, ou également des familles qui ont des appartements trop grands et qui n'arrivent pas à changer de logement et qui du coup ont des loyers trop élevés par rapport à ce qu'ils peuvent assumer, etc. Donc il y a pas mal de cas différents. L'idée, donc, voilà, c'est de rassembler ces personnes-là en situation de mal logement et également les personnes sans logement. Et là-dedans, on mettra les personnes qui sont dans des foyers d'hébergement d'urgence, également dans la rue, dans les bidonvilles. J'oublie.
Et puis les gens qui sont hébergés chez d'autres personnes et qui n'ont pas d'appartement.
Exactement, oui. Qui peuvent être considérés comme hébergés alors qu'en fait, ils sont dans une situation de mal logement, mais plus que... c'est même pas... Ça ne leur appartient pas. Voilà. Donc, cette initiative, elle part du fait que, comme tous les ans, on arrive bientôt à la fin de la trêve hivernale, qui sera le 31 mars. Et un grand nombre de personnes vont être mises à la rue, sachant qu'il y a déjà énormément de personnes à la rue. Selon une source qui m'est personnelle, de quelqu'un qui travaillait notamment au 115 pendant pas mal d'années, il parlait de plusieurs milliers de personnes qui sont à la rue à Grenoble.
À Grenoble.
Voilà. Alors, pas de manière permanente, mais parfois, c'est plusieurs jours par semaine. C'est des choses qui sont assez variables. Et donc, on approche de la fin de la trêve hivernale qui sera le 31 mars. Comme tous les ans, on sait que ça va être une très grosse galère en fait, pour non seulement les personnes qui sont déjà à la rue, mais en plus tous ceux qui vont s'y retrouver et qui vont en fait naviguer entre des situations compliquées jusqu'à la prochaine trêve hivernale. Donc voilà, il y a toute une discussion entre les personnes qui connaissent ces mouvements-là depuis longtemps sur est-ce que la trêve hivernale, c'est quelque chose, c'est un bon mode de fonctionnement. Donc il y a plein de gens qui dénoncent en fait l'absurdité de ce dispositif, parce que les personnes en fait qui sont dehors, c'est dur toute l'année et c'est pas juste en hiver.
Mettre une limite,
voilà. Donc donc il y a ces assemblées, il y a un rendez-vous mercredi 9 à la mairie qui a été obtenu par ce rassemblement pour discuter avec au moins la mairie pour cette fois-ci de ce qu'elle peut répondre aux besoins. Sachant que la mairie, le maire est directeur de Actis, qui est donc un des bailleurs sociaux principaux de la ville de Grenoble, qui également, donc il y a des élus qui siègent au conseil d'administration de l'OPAC 38, si je ne dis pas de bêtises. Également, le maire est de la même, du même courant que la ministre du Logement.
Europe Écologie Les Verts.
Voilà, donc il y a aussi cet enjeu de discuter de comment sur le territoire sont mis en place les discours tenus au niveau national. Voilà, donc c'est des choses qui sont en discussion et c'est très intéressant de voir que les personnes aussi touchées se mobilisent vraiment.
Ça, c'est le plus important.
C'est pas du tout un mouvement
ouais.
uniquement de militants. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.
Ce sera tout. Tu pourrais confirmer, Antoine, qu'à ce propos des mal logés, l'Institut de géographie alpine mettrait à disposition de l'espace ou des locaux pour l'association Femmes SDF ?
Alors, ce n'est pas exactement ça. Non.
C'est pas ça.
C'est l'université d'accueil qui est une association fraîchement constituée et qui va... donc les locaux de l'IGA, par contre, de l'Institut de géographie alpine, vont servir pour accueillir des femmes SDF.
Mais c'est
en partenariat avec l'association Femmes SDF. Mais on aura l'occasion de les inviter. On les a déjà rencontrés. Et, ils sont d'accord pour venir, mais pas tout de suite. Pour l'instant, ils ont envie de s'organiser. avant de communiquer vraiment sur, sur ce qu'ils font.
De toute façon, il n'y a pas d'ouverture prévue avant septembre.
Ouais.
2016.
Avant septembre, octobre, il y aura un crowdfunding qui va débuter.
Crowdfunding.
Donc, pour récupérer budget, des fonds sur Internet, vous savez,
sur Internet.
Ça se fait de plus en plus, avec une petite vidéo et on vous demande de participer. Et ils vont faire ça au, au printemps, normalement, donc je pense qu'on les invitera à cette occasion-là. Ça leur fera un petit coup de pub et nous, ça nous permettra de parler de ce qui se passe sur, sur le quartier. Parce que ça, je rappelle que l'Institut de géographie alpine, il est au quartier Vigny-Musset et qu'ici, on se trouve au village olympique, donc c'est vraiment... dans le même secteur.
C'est juste de l'autre côté de la rue.
Oui. Voilà, de l'autre côté de la rue.
Merci Antoine pour ces précisions. Je rappelle qu'on est toujours sur Radio Kaléidoscope dans l'émission Aura des rues. Et avant de, d'écouter notre... de donner la parole à notre invité, Djilali Kedim, on va écouter un deuxième morceau. Donc on continue un petit périple en Amérique latine. Ce sera en Colombie. En Colombie, cette fois-ci, avec un vallenato. Le vallenato, ça désigne à la fois une musique, un groupe humain et un troubadour populaire qui chante les vallenatos. Ça vient d'une région de la Colombie qui est tout à fait au nord de la Colombie, près de la frontière avec le Venezuela. Donc c'est plus, c'est le Magdalena Grande, qui est près de, donc, de la mer des Caraïbes, on va dire. Pendant longtemps, cette région était restée un peu fermée, d'où cette musique s'est développée fortement. Elle était un petit peu en dehors des circuits d'information, etc. Et le vallenato, c'était une façon de colporter les histoires d'une façon très, peut-être humoristique ou un peu caustique, de raconter ce qui se passait dans le pays. La base de... La base des instruments de musique pour le du vallenato, c'est l'accordéon. Donc, c'est une musique métissée, afro-indienne, et puis l'accordéon, ça venait d'Europe. Hein. Et donc, l'accordéon, guacharaca, qui est un racleur indigène, donc un instrument original, autochtone en tout cas. Et puis le tambour qui est la caja vallenata, la caisse vallenata, d'origine plus afro. Voilà. Donc on va écouter ce morceau qui s'appelle La Negra du compositeur, la noire, ça veut dire, ça peut être celle qui a la peau noire ou celle qui a les cheveux noirs. C'est pas péjoratif du tout en espagnol. Hein. Alberto Beto Murgas, donc c'est le compositeur, on dit, de la quatrième génération des musiciens vallenato. Il est né après 1950. Donc sa chanson La Negra est très populaire en Colombie. On l'écoute.
Dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.
Tengo una negra rebelde que le dan distinta furia, pero lo que yo prefiero es cuando besa con locura.
La negra dice que ella no me quiere, pero
yo le tramé una trampa, resultó ser muy celosa, pero ya la tengo mansa.
La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.
Me trata de vagabundo, pero cuando yo la beso se olvida que existe el mundo.
La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.
La rabia de esa morena es lo que se llama amor. No barroso, su boquita se le nubla la razón.
La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.
Donc on vient d'entendre un vallenato de Colombie, voilà, du nord, la frontière vénézuélienne. Voilà. Avant de donner la parole à Morgane et à Djilali, Antoine, quelques mots sur la réunion du CROUS, c'est
oui,
ça ou le projet du CROUS, on en parle depuis longtemps.
On parlait pas mal de logement tout à l'heure, et justement, ici, on est sur le village olympique, et à deux pas d'ici, il y a l'ancienne cité universitaire. Ou en tout cas, elle est divisée en deux, ce qui est encore utilisé par le CROUS, et la partie qui n'est plus utilisée, donc qui n'est plus des résidences étudiantes, et où notamment il y a un bâtiment qui est occupé par des demandeurs d'asile. Et donc depuis maintenant un an, on est en train de travailler sur ce projet-là, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le quartier, en gardant les gens qui occupent actuellement le bâtiment, en essayant de mobiliser les associations du quartier, les habitants. Et on avait une réunion la semaine dernière pour décider du plan d'action. Donc il me semble qu'on a un stand pour la fête de quartier qui se tiendra le 11 juin.
Samedi 11 juin, oui. Samedi 11 comme juin. L'an dernier, on va continuer.
Comme l'an dernier, oui. On avait fait une petite action avec une maquette pour montrer ce que ça représentait sur le quartier, toute l'envergure du CROUS. Et ce qui s'est dit principalement à la réunion de la semaine dernière, c'est qu'il fallait aller interpeller les élus et réussir à trouver un peu d'argent de leur part et qui prouveront en fait qu'ils sont avec nous et qu'il n'y ait pas de projet déjà autre sur cet espace-là en fait. Parce que ça fait un an qu'on travaille, on dit avec les petits échanges qu'on a eus, il y a des rumeurs comme quoi il y a eu des projets avant, mais ça s'est pas fait.
Que de raser carrément les bâtiments.
Rien. Il y a eu le projet de raser, de faire passer une piste cyclable. Pour l'instant, a priori, il n'y aurait pas de projet dessus, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir avoir une subvention de la part de la ville ou de la métro qui prouverait qu'il n'y a aucun projet dessus et qui nous soutienne, en fait. Donc voilà principalement ce qui s'est dit dans ce.
C'est encore un peu tôt pour évoquer les projets de ceux qui veulent fêter les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble,
oui, voilà,
en 2018.
Dans le collectif, en tout cas à la réunion de la semaine dernière, il y avait le COLJOG, donc le Conservatoire, Observatoire, Laboratoire des Jeux Olympiques de Grenoble, donc qui veulent rallumer la flamme olympique qui en 2018, ça fera quand même 50 ans. Donc ils veulent fêter le jubilé des Jeux Olympiques d'hiver et pendant toute la durée des Jeux, je pense une dizaine de jours.
Mmh. Et, quel meilleur endroit que le village olympique ?
Voilà. Donc nous, on les a invités et justement, on est en train de travailler avec eux, voir ce qu'il est possible de faire et comment on peut aussi refaire vivre. Enfin,
est-ce qu'ils vont installer une piste de ski dans le quartier ?
Non, je pense pas.
Alors la piste de ski, c'est pas prévu, mais peut-être la grande mascotte, le grand chousse.
Oui, et c'est une mascotte qu'ils ont fait en grandeur géante.
Ouais. Et il y a un projet de vendre cette mascotte-là pour qui gagne un petit peu d'argent avec ça.
D'accord. Est-ce que le général de Gaulle sera là pour les 50 ans ?
Alors, on n'a pas confirmé, mais la demande a été faite.
Là, on peut amener la statue du commandeur. Voilà. Donc, on est toujours sur Radio Kaléidoscope et on donne maintenant la parole à Morgane et notre invité,
Djilali. Merci, Marie-France. Donc, Djilali, on t'a invité ici pour nous présenter un peu l'association Asali. Donc, tu nous as expliqué le. Alors, je vais essayer de le redire. Association de solidarité des Algériens de l'Isère. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre de cours d'arabe que tu donnes à l'association. Et on a notamment parlé de la naissance de l'association autour d'une question que je ne connaissais pas personnellement. Et donc, est-ce que tu veux bien nous la raconter ?
Oui, le problème de la création de l'association est dû à une situation politique en Algérie. C'est-à-dire qu'avant, c'était une amicale des Algériens de l'Europe, donc une structure plus ou moins étatique de l'État algérien, qui s'occupait du rapatriement des ressortissants algériens ou franco-algériens. En 88, émeute en Algérie. 89, installation du multipartisme, donc dissolution de cette structure pré-étatique, je dirais. Et donc, ce qui fait que les ressortissants algériens ou franco-algériens se sont retrouvés du jour au lendemain sans structure pour faire rapatrier leurs parents, leur mère, leur père, leurs frères, etc. Donc ici à Grenoble, il s'est créé cette association qui n'a aucun lien, j'insiste, avec le consulat. C'est une association en loi 1901 à but non lucratif et laïque pour s'occuper uniquement au départ, je dis bien au départ, lors de la création, pour le rapatriement des ressortissants algériens et franco-algériens. Des corps. Alors pourquoi la question qu'on se pose, pourquoi vouloir à tout prix rapatrier les corps dans le pays d'origine? Pour deux raisons. La première raison, c'est une raison, je dirais, d'un lien qu'ils veulent garder affectif avec leur pays d'origine. Et puis la seconde chose, c'est le problème des concessions en France. Dans les pays du Maghreb, il n'y a pas de concessions. Donc, alors qu'en France, il y a des concessions qui sont données pour 15 ans, 30 ans et 50 ans. Et souvent, les personnes qui vieillissent ne voudraient pas justement avoir des difficultés, enfin des difficultés parce qu'ils sont déjà morts, si on peut dire, mais c'est-à-dire c'est que leurs enfants ne payent pas, les concessions sont renouvelables. Et si au bout de 2 ans, la concession n'est pas renouvelée, on prend les eaux et on les met dans un ossuaire. Et ça, c'est pour ces personnes âgées, c'est inimaginable, inacceptable. Alors c'est pour cette raison que souvent, les personnes âgées souhaitent rapatrier justement leur dépouille. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a à peu près plus de, entre 25 et 28 % des personnes qui ont entre la trentaine et la quarantaine, qui sont adhérents à l'association, et qu'eux ne souhaitent plus du tout que le corps soit rapatrié. Pourquoi ? Pour une deuxième raison qui s'est créée, c'est qu'à partir de, il y a une quinzaine d'années, il y a eu création d'un cimetière intercommunal à Poisat.
À Poisat, oui.
Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir ce qu'on peut appeler un carré musulman. Et c'est pour cela que aujourd'hui, je dirais peut-être dans quelques années, il y aura presque, moi je pense dans une dizaine d'années, 50% de cette population ne souhaiterait pas du tout rapatrier les dépouilles de leurs parents.
Ça s'élève à combien de personnes qui sont adhérentes de l'association ?
Direct, c'est-à-dire parce qu'il y a l'adhésion individuelle et l'adhésion familiale. Sur l'adhésion, je dirais individuelle et familiale, nous sommes actuellement à 2200 adhérents. Mais si on prend les ayants droit, on arrive plutôt à 6000.
D'accord. Et c'est pour combien du coup de rapatriements par an ? Vous organisez combien de rapatriements ?
Généralement, il y a actuellement, pour l'année qui est écoulée, donc l'année 2015, il y a eu grosso modo, je crois, 41 décès. Sur 41 décès, il y a eu 8 enterrements en France et le reste en Algérie. Mais dont certains, ils sont décédés quand ils étaient en déplacement en Algérie. Pour les rapatriements, je pense qu'il y a actuellement, pour l'année 2015, il y a eu, je crois, 21 rapatriements seulement.
D'accord. Et comment l'association fonctionne sur ces questions-là? Vous travaillez avec une assurance comment ça s'est
Nous travaillons avec un courtier en assurance qui est sur Lyon. Et que parce qu'en tant qu'association nous-mêmes, avec 2200 adhérences, ça vous paraît beaucoup, mais c'est insuffisant pour des assurances.
Oui. Mmh.
C'est-à-dire que donc, le courtier en assurance qui est sur Lyon, qui s'appelle LTOA, Lyon Tête d'Or, a actuellement à peu près presque 21 000 adhérents. Donc, et c'est comme ça qu'on puisse avoir, des prix, je dirais, assez compétitifs d'adhésion, je dirais, pour la garantie obsèque. Sinon, si c'est qu'à 2200, comme je vous ai dit au départ, les prix ne peuvent pas être très intéressants parce que pour les assurances, vous savez, les assurances ne sont pas mercantiles, hein, c'est le gain. Et donc, ce qui fait que s'il y a beaucoup de décès, donc automatiquement, l'année suivante, les barèmes augmentent. Voilà.
Et tu insistais sur le fait que vous n'étiez pas dépendant que vous n'étiez pas lié au consulat. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou...
Je pense que, pas à mon avis, hein, je ne connais pas très bien toute l'historique de l'association. Moi, je suis arrivé qu'en 2010, mais jusqu'en 2006 ou 2007, il y avait des liens, plus ou moins, parce que l'association faisait la garantie obsèque, mais faisait aussi ce qu'on appelle de l'humanitaire avec l'Algérie. Donc, lorsqu'on fait de l'humanitaire, on est obligé de travailler avec le consulat pour que les conteneurs puissent rentrer. Mais depuis 2010, donc lorsque je suis arrivé, nous on travaille aujourd'hui, la partie humanitaire a été abandonnée, on travaille sur la partie culturelle et partie culturelle, nous n'avons aucun lien avec le consulat d'Algérie. Voilà.
D'accord.
Et donc cette partie culturelle, c'est ça que vous voulez développer?
Oui, on peut développer l'activité actuelle aujourd'hui de l'association.
Moi, j'avais une question en fait sur la garantie obsèques. Vous êtes la seule association qui fait ça dans Grenoble et l'agglomération?
Il y en avait, je crois, en tant qu'association, j'entends. Parce que certains, ils le font à titre privé. Hein, donc mais à titre d'association, je crois qu'il y en avait deux ou trois. Et aujourd'hui, avec le vieillissement de la population... Nous sommes les seuls, je dirais presque dans l'agglomération grenobloise. Mais à titre associatif, on entend très bien.
Ça veut dire donc il y a des familles qui continuent de faire rapatrier les corps, mais à titre privé, qui s'organisent avec les moyens du bord, j'ai envie de dire.
Oui, voilà, parce que souvent, on a des pics d'adhésion, c'est quand il y a un décès dans le voisinage, et on se rend compte que le coût du rapatriement est cher. Il varie entre 3 200 jusqu'à 4 000 euros. Et donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, les personnes considèrent que peut-être qu'il est peut-être temps de se faire, adhérer pour avoir, une possibilité de couverture. Voilà.
Et d'ailleurs, moi aussi, je voulais revenir sur l'histoire du cimetière et du carré musulman. Déjà, peut-être savoir c'est quoi les contraintes de ça et pourquoi ça n'a pas été pris en compte plus tôt. Est-ce que tu as une explication sur...
Il y a plusieurs raisons. Moi, j'en vois deux ou trois raisons principales. La première raison, c'est que, comme d'habitude, les pouvoirs publics ont pensé que ces personnes, ils étaient que de passage. Donc,
Ils coûteraient rien à la fin.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils rentreraient lorsqu'ils seraient à la retraite, etc. Ce qui s'est avéré complètement faux. Il y a eu très peu de retour après la retraite. Donc, ce qui fait qu'ils vieillissent ici. La deuxième raison aussi, je pense, c'est que la législation, sur les... sur les cimetières intercommunaux a été très très strict pendant très longtemps, et c'est-à-dire donc qui ne tenait pas compte du rite des religieux, c'est-à-dire que ce soit pour les cimetières israélites ou pour les cimetières musulmans, il y a une disposition du cimetière qui fait que on peut pas enterrer les gens comme ça, c'est-à-dire donc il y a une orientation des temples qui font que on ne pouvait pas, enterrer dans ce qu'on appelle un cimetière normal, etc. Mmh. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, les communes ont fait la sourde oreille et qu'ils n'ont pas, fait les démarches nécessaires. À Grenoble, c'est plutôt la démarche de la métro, parce que le cimetière intercommunal de Poisat n'appartient pas à la ville de Poisat, mais à la métro. Et la métro a pris en charge ce problème il y a presque, je crois, une quinzaine, une vingtaine d'années, et qui fait qu'aujourd'hui, justement, ils ont été, façon de faire de l'humour noir, ils ont été victimes de leur succès, ce qui fait que ce soit le carré musulman ou le carré israélite, ils sont obligés maintenant d'élargir parce que de plus en plus, évidemment, il y a le vieillissement des populations et ces carrés sont devenus insuffisants. Donc il y a, je crois, dans les archives, dans les projets de la commune, d'élargir dès 2018 le cimetière de Poisat, de telle sorte de raser une partie de la forêt qui
se trouve contre la colline. C'est très beau ce cimetière.
C'est très 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 beau. Il est très très beau. C'est un véritable cimetière paysagiste. Donc ce qui fait que voilà pourquoi. Alors évidemment, dans l'agglomération, il y a certaines communes qui ont des carrés comme Échirolles ou surtout comme Pointe-Clé. Ils ont des carrés musulmans.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur...
On va peut-être faire une petite pause musicale. La dernière pause musicale. Ce sera donc, on continue le petit périple en Amérique latine, cette fois-ci avec Mercedes Sosa, Argentine. Mercedes Sosa, qu'on appelait affectueusement la Negra, et ce n'était pas du tout péjoratif. Elle est décédée en 2009. Elle était très, très populaire en Amérique latine. Pendant la dictature, elle a été en exil à Paris, à Madrid. Puis ensuite, elle est retournée en Argentine. C'est surtout une interprète de Violeta Parra, d'Atahualpa Yupanqui. Et dans ce morceau qu'on a choisi aujourd'hui, elle est l'interprète d'une chanson de Victor Heredia qui s'appelle « Razón de vivir ». Raison de vivre. Pato dirait que ce serait peut-être mieux d'écouter l'original de Victor Heredia. On n'a peut-être pas le temps, mais pour l'instant, c'est Mercedes Sosa. Raison de vivre. Donc, la raison de vivre, c'est une chanson d'amour, mais en même temps, si on veut continuer à lutter, si on veut continuer, on a besoin d'amour.
Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí. Ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, gata. razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz y perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, tu razón de vivir mi vida.
Voilà, on écoutait Mercedes Sosa, Raison de vivir, Fogata de amor, c'est flambée d'amour ou vague d'amour. C'est une chanson de Victor Heredia, chantée par Mercedes Sosa, donc, argentine. Et elle est extraite d'un CD, un best-of, on va dire, dans lequel on a des personnes plus connues qui chantent. Elle est en duo avec Francis Cabrel pour une chanson et avec Nilda Fernandez pour une autre chanson. Voilà. Donc vous êtes toujours sur Radio Kaleidoscope dans l'émission Aura des rues et on poursuit notre échange avec
Djilali Redim, voilà, qui est là aujourd'hui avec nous.
À vous la
Alors
parole.
On a parlé un peu de la naissance d'Asali, donc l'association dont tu fais partie. En première partie, et puis là on va aborder plutôt l'actualité, qu'est-ce que vous avez développé autour d'un projet culturel. Voilà, donc toi tu as, Djilali, t'es salarié de l'association, vous êtes trois salariés, et donc ton rôle c'est médiateur culturel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu?
Oui, donc lorsque je suis arrivé à l'association en 2010, il n'y avait pas de parti culturel. Et j'ai trouvé quand même c'est dommage de ne pas connaître cette culture du Maghreb en général et de l'Algérie en particulier. Et donc je me suis attelé à monter tout un programme culturel maintenant depuis 2011. Donc on a créé des cours d'arabe littéraire. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a créé aussi des cours d'arabe dialectal. Évidemment, la différence, pour quelqu'un qui n'est pas initié, ça paraît assez bizarre qu'il y ait des cours d'arabe dialectal et des cours d'arabe littéraire. Mais en réalité, il y a une véritable différence. L'arabe dialectal, c'est la langue parlée, c'est la langue de communication, c'est la langue avec laquelle on chante, avec la langue avec laquelle on pleure, avec laquelle aussi on insulte, etc. Or que la langue arabe est une langue savante qui est utilisée uniquement par les médias ou par l'État dans ses administrations. Et donc, ce qui fait que j'ai commencé à donner des cours d'arabe dialectal bien avant que j'arrive à la Sali. J'ai commencé en 2009 à Amal, parce que j'ai considéré que personne ne voulait enseigner cette langue. Pour l'unique et simple raison, c'est une langue bâtarde, un peu comme le créole, etc. Alors que c'est une très très belle langue. Donc aujourd'hui, maintenant, ça fait depuis maintenant 2009, ça fait presque 8 ans que j'enseigne cette langue. Et ce qu'on a voulu aussi faire, c'est qu'on a essayé, malheureusement, on n'est pas arrivé, on a voulu enseigner l'année dernière le tamazir, qui est la langue des Touaregs, mais on n'a pas trouvé d'enseignant, je dirais, assez compétent. On a aussi créé un cycle depuis 2010, cette fois-ci un cycle du cinéma maghrébin, une fois par mois. Donc on passe des films tunisiens, algériens, ou marocain, une fois par mois, en langue arabe dialectale, sous-titré en français. ça permettrait déjà aux personnes qui suivent les cours d'arabe dialectal de les
pratiquer un petit
de pratiquer un peu,
un bain de...
mais aussi c'est surtout se faire connaître les différentes thématiques que le cinéma maghrébin touche, la jeunesse, l'homosexualité, la situation des femmes, la justice sociale, la justice politique, etc., à travers tous ces films. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes, je dirais, pratiquement assez, comment je dis, contents de cette fréquentation, malgré qu'elle a eu des dents de scie, parce qu'on a fait quelques petites erreurs pendant un moment. On a voulu étendre au cycle du cinéma méditerranéen, et on a fait, c'est-à-dire italien, espagnol surtout. Et là, on nous a boudés parce que nous sommes une association franco-algérienne et il fallait faire du cinéma maghrébin. Ça, c'est comme il disait Einstein, il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé. Mais bon,
mais
il ne faut pas désespérer.
Insister.
Il faut insister. Et puis, depuis maintenant de presque 3 ans, on a créé un nouveau concept qui est ce qu'on appelle les Cafés d'Orient. Les Cafés d'Orient, c'est quelque chose de très vieux qui a commencé à la fin du 19e siècle, beaucoup plus en Égypte, au Liban, un peu en Tunisie. En réalité, c'est des cafés où il y avait des grands poètes, philosophes qui venaient débattre avec la population dans ces cafés. Et ça finissait toujours à la fin des débats par de la musique, etc. Donc il y a des grands cafés encore qui existent aujourd'hui au Caire. C'est ces cafés qui ont donné la naissance au nationalisme arabe et aux indépendances de tous ces pays, que ce soit Beyrouth, au Caire, Tunis, etc.
C'était pas Facebook?
Peut-être. C'était le Facebook d'antan. Et par contre, nous, aujourd'hui, ce qu'on utilise dans notre Café d'Orient, c'est des thématiques qui sont récurrentes à notre pays, donc ici la France, mais aussi des fois à des sujets qui peuvent être de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je vous en parlerai disons rapidement, brièvement, certains sujets qui ont été traités cette année. Et on invite en deuxième partie des musiciens. Alors, les musiciens, c'est pas uniquement la musique arabe, hein, ça a été du jazz, ça peut être de la musique des Balkans, ça peut être de la musique d'écoute, de la chanson française, je dirais aussi, il y a eu du rap, enfin un peu de tout, il y a eu du reggae, etc. Alors grosso modo, cette année, enfin ce qui a été traité plus ou moins, donc on a traité le vivre ensemble, le mythe ou réalité, histoire des Juifs algériens, le mouvement associatif grenoblois, les relations franco-algériennes, usage et risque de la technologie nucléaire, les cultures autochtones pré-islamiques en Algérie, et pour le prochain, donc le 25 mars 2016, les revers du printemps arabe sur le Maghreb. Voilà, grosso modo, ce que nous voulons faire, parce que ça permettrait aussi de connaître un peu l'histoire et les histoires, ouais, de ces peuples à travers leur musique, leur poésie, leur combat, mais aussi, surtout, de rapprocher ces cultures, parce que la poésie, elle est universelle. La musique, elle est universelle. La littérature, elle est universelle. Il n'y a pas de... Ce qui va nous diviser, c'est la politique et la religion. Et donc, c'est deux choses qui ont été plus ou moins éliminées volontairement de notre programmation. Pas parce que ce n'est pas important. Je considère que c'est important. Mais pour l'instant...
C'est pas par là qu'on va se rapprocher.
C'est pas par là qu'on va se rapprocher, merci.
Et puis en même temps, c'est une posture politique que de vouloir se faire rencontrer des cultures, enfin, de partager justement ces histoires. Enfin, moi, je sais que ma famille, elle est pas mal traversée aussi par ça. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés dans les cours d'arabe dialectal. Toi, comment en fait t'es venu à vouloir faire partager ces cultures? Enfin, comment dans ta vie ça, tu en es arrivé à ce
point-là? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en France en tant qu'étudiant, puis j'ai constaté que la guerre d'Algérie ne finissait pas, c'est-à-dire elle était toujours sous-jacente dans les relations entre États, mais aussi entre peuples, entre individus, etc. Et donc, nous avons après ce constat, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, c'est peut-être de rapprocher les gens. Pour rapprocher les gens, qu'est-ce qui peut les rapprocher? La musique, la poésie, la littérature. C'est ça qui fait. À partir du moment où les gens s'apprécieront, se respecteront, discuteront, le débat sur la religion ou sur la politique devient beaucoup plus facile. Je ne dis pas qu'il est simple, hein, mais il devient beaucoup plus facile parce qu'on est prêt à écouter l'autre. Mais au départ, c'est difficile d'écouter l'autre. Et donc, ce qui fait que si en réalité, par rapport à ta question, on biaise un peu pour essayer de faire asseoir les gens à une même table.
Ouais. Non.
Et est-ce que ça marche du coup ? Est-ce que les gens discutent ?
Ta question est très, très, très pertinente. On a constaté que ça marche, mais malheureusement pour les personnes qui ont la quarantaine et plus. Les jeunes, ils viennent pas. C'est ça peut-être le souci que nous avons. C'est-à-dire que par contre, on a vu des personnes qui au départ ne se parlaient pas. S'ils avaient peur de nous, on avait peut-être peur d'eux. Et qui aujourd'hui, on s'invite mutuellement, ils viennent, on va voir dans leurs associations. C'est une réussite. Par contre, les jeunes, non. Quelles que soient leurs origines, leur sexe, etc., peut-être c'est trop barbant, peut-être que ce que nous faisons ne les intéresse pas trop, peut-être qu'ils sont dans l'instantané. Je ne juge pas, mais je constate, c'est tout. Et ce qui fait que c'est malheureusement difficile.
Oui, donc la balle est dans le camp des jeunes, on va dire. Hein, surtout qu'on a besoin de comprendre et de tout ce qui est...
Dernier mot, pour contacter Azali, où est-ce qu'on vous trouve ?
Alors, donc pour contacter la Sali, donc on a un mail, donc c'est association.asali@gmail.com ou bien... on a un site, c'est www.associationasali.fr.
Et vous avez aussi un local ?
Oui, on a un local, c'est vrai. Il est situé 37 rue Humber 2, donc c'est dans le prolongement de la piscine municipale Jambon.
Voilà. Merci.
Et donc c'est là-bas que se passent les projections.
Oui,
c'est le café d'Orion.
Est-ce que je pourrais ajouter une petite chose justement par rapport
On arrive à la fin. Voilà. Là, vas-y.
Nous avons un concert justement pour rapprocher les gens, un concert de musique Chaabi pour le 10 mars, donc à la salle Olivier Messiaen. Et la musique Chaabi, c'est une musique qui a été initiée au début du 19e siècle à Alger. Puis à Mostaganem. Et donc les pionniers de cette musique, c'était des personnes d'origine berbère, kabyle et juif, qui ont contribué à cette musique qui est un dérivé de la musique arabe-andalouse. Alors ceux qui aiment la musique Chaabi, je leur souhaite de venir nous voir le 10
vous
mars.
Vous êtes invité le 10 mars à la salle Olivier Messiaen. Merci Djilali, merci tout le monde, Morgane, Benjamin, Antoine, merci Pato. Voilà, moi je vous retrouverai dans un petit peu plus d'un mois. On aura l'occasion d'entendre Zora qui viendra nous donner des nouvelles du village olympique. On l'a entendu la semaine dernière.
Aura des rues continue quand même.
Ah, Aura des rues ne s'arrête pas. Aura des rues, donc c'est l'émission qui prend de la hauteur.
Et donc sur Radio Calaïdos.
Voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Le 16 mars.
Merci pour votre invitation.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur. Sur Radio Calaïdoscope, 97 FM. À la prochaine. Yeah.